Bonjour à tous. Merci aux courageux qui sont venus à 17h un vendredi écouter encore une conférence. Alors, on va passer, pour ceux qui resteront jusqu'au bout, une petite heure à parler des technologies pour l'autonomie, la vision de Medialis, ma société, sur ces technologies. Juste avant, on prend 5 minutes pour en fait remettre un prix à une étudiante. En fait, on a créé à la fin de l'année dernière un fonds de dotation qui s'appelle Kaelis et qui vise en fait à promouvoir et à contribuer au développement du secteur de la silver economy. C'est une structure à but totalement non lucratif. Un fonds de dotation, c'est une sorte de petite fondation, entreprise ou pas, mais nous en l'occurrence d'entreprise. Notre lauréate est ici présente, Julie Chaffanjon. Notre présidente du fonds de notation n'est pas là, mais moi je suis l'un des administrateurs en fait, et c'est en son nom que je vais remettre ce prix aujourd'hui. Elle aurait souhaité pouvoir vous féliciter personnellement, mais c'est l'ancienne numéro 2 de la FNG, elle a des projets aussi qui l'ont contraint de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Elle est très heureuse en fait, et nous sommes tous très heureux de pouvoir vous récompenser au nom de Kaelis pour votre travail passionnant qui s'inscrit au cœur de nos missions premières, celle de valoriser toutes les solutions associant technologie et humain. En fait, on avait plusieurs étudiants en master qui pouvaient nous présenter leurs mémoires. C'est des gens qui peuvent s'orienter vers après de la recherche comme une thèse dans le domaine de la technologie pour les seniors, pour l'autonomie au sens large. L'ambitieux projet de notre fonds de notation, c'est concourir au respect de choix de vie des personnes âgées. Tout ce qui est vieillissement de la population, transition démographique, révolution de la longévité, les appellations ont varié au cours des années pour qualifier cette réalité qui représente certains défis, mais aussi une chance pour notre société du XXIe siècle, où 3, parfois 4 générations vont devoir vivre ensemble et pouvoir vivre ensemble. Mais ce bouleversement démographique et sociétal est directement impacté par les mutations technologiques sans précédent qui constituent elles aussi une chance. Elles offrent des opportunités innombrables pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées, y compris Alzheimer, et de leurs aidants, de leurs familles, tout en préservant leur autonomie à domicile comme en institution. Technologie et humain ne s'opposent pas, comme certains voudraient le faire croire. Technologie et humain sont au contraire liés et destinés à être associés. L'humain est au cœur de la démarche de notre fonds de notation, qui a choisi de se mobiliser en pariant sur l'avenir et sur les jeunes, en soutenant donc des jeunes étudiants, chercheurs, entre guillemets, dans le champ de la silver economy et plus précisément de la technologie pour l'autonomie. Cet axe nous semble prioritaire dans un contexte particulièrement tendu pour les jeunes qui veulent s'engager dans la voie de la recherche. L'humain encore, par l'engagement de Kaelis, a contribué au changement de regard sur les personnes âgées dans notre société, ce qui est assez compliqué, et un regard qui les mettra en valeur lors de l'utilisation de ces nouvelles technologies. Bon, pour votre travail et ses futurs développements, on espère que vous participerez et contribuerez à faire en sorte que se développe le secteur, notre fonds de notation. Et je souhaiterais éventuellement vous inviter l'année prochaine, si on a l'occasion de remettre en place ce prix, à venir, pourquoi pas même remettre le prix au prochain lauréat. Donc, bravo. Vous pouvez dire peut-être un petit mot sur le thème de votre mémoire ?
Bonjour à tous. Donc, mon mémoire portait en fait sur la préconisation et la mise en place des aides technologiques auprès des personnes présentant des maladies d'Alzheimer et apparentées. Et je suis étudiante certes, mais je suis aussi avant tout professionnelle, ergothérapeute, et je travaille dans une équipe spécialisée Alzheimer. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup poursuivre ces recherches à l'avenir. Je pense que la technologie, c'est pas mauvais en soi, mais c'est ce qu'on va en faire qui est important. Hein, c'est ni positif ni négatif, mais ça peut apporter un petit quelque chose. Et il faut essayer de démystifier un petit peu tous les préjugés qu'on peut avoir là-dessus. Hein. Donc il y a du bien, il y a du moins bon, et puis... Voilà, c'est comment on accompagne finalement la mise en place d'une aide technologique auprès de ces personnes, mais pas n'importe lesquelles, des aides technologiques qui doivent être intuitives, qui doivent pouvoir s'insérer dans le quotidien des gens sans changer leurs habitudes de vie pour autant. Donc voilà, c'est un petit peu mon sujet de travail et de recherche.
On va l'applaudir peut-être. Je vous remercie officiellement.
Merci beaucoup.
Le prix. Merci. Je vais commencer la conférence maintenant proprement dite, si vous voulez bien. Alors, Silver Technology, pour ceux qui me connaissent un petit peu, ou même Silver Economy au sens large, vous savez que je dis toujours que c'est un secteur difficile, avec une inertie lente, pas du tout, l'or gris, l'or blanc et l'avalanche d'euros que certains peuvent prétendre. au départ, donc ma société Medialis a 10 ans. Globalement, on voyait qu'il y avait plein de technologies qui se développaient sur le marché. On voyait que certaines technologies pouvaient apporter des solutions pertinentes et complémentaires à l'appréhension des aidants, mais ni les professionnels ni les particuliers ne les connaissaient. Donc on a créé un centre d'évaluation neutre par rapport au monde industriel qui permettait d'aider les associations, les caisses de retraite, les mutuelles, les bailleurs, les collectivités à savoir ce qui est bien, moins bien et à l'implanter auprès de leurs citoyens. On est une entreprise sensible à l'économie sociale et solidaire. Moi-même, je viens du monde associatif, je suis ingénieur centralien et biologiste et j'ai passé quelques années au Secours catholique comme référent intergénérationnel. Pour après en savoir plus sur nous, de toute façon, on a deux stands, un ici et un sur l'espace Maison Mieux Vivre. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour en savoir un peu plus sur nous, sur ce qu'on fait. On a plein de partenaires géniaux, voilà, et on fait des évaluations pour différents acteurs, différentes natures, typologies d'acteurs, comme vous pouvez voir ici. Alors, je vous propose quatre petites parties. On a une heure, mais je vais mettre un peu moins de temps parce que on a des questions et puis certains d'entre vous partiront sûrement avant. Une introduction rapide à la silver economy, les cinq tendances du marché. Alors, j'ai pas de boule de cristal, hein, ou en tout cas, c'est l'expérience qu'on peut avoir et je vais vous la partager un petit peu rapidement. J'aime bien vous donner des exemples de retours d'expérience d'acteurs concrets, des réels, sur le marché. Pourquoi leur solution a marché, pourquoi elle n'a pas marché ou qu'est-ce que ça leur a apporté éventuellement. Et puis après, par les deux minutes d'évaluation et d'éthique. Ça va être dur d'être un peu dynamique là-dedans, mais vous savez quel pourcentage de Français finissent leur jour à domicile, c'est-à-dire ne passent pas par la case EHPAD. Vous avez une idée ou pas? Pas mal, ouais. Un peu plus haut. On a 87% des Français qui ne passent pas par la case EHPAD. Donc quand on a un industriel qui cible uniquement le marché des résidences, maisons de retraite ou autres, c'est un peu dommage parce que globalement, l'essentiel du marché, il est quand même dans le soutien à domicile. Une personne coûte par jour, en long séjour à l'hôpital, plus de 2000 euros par jour. En réanimation chirurgicale, on peut monter à 8000 euros. Donc c'est pour ça que les coûts du maintien à domicile n'ont rien à voir, même en termes d'ordre de grandeur, avec ce qu'on peut voir à l'hôpital, et c'est pour ça que c'est aussi important. Et à côté de ça, si je vous demande le prix mensuel d'un EHPAD, ça va dépendre de votre région. Donc en province, 2-3 000 euros, on a de la chance. À Paris, dans le 92, on commence à 4 000 euros et un peu plus, 24 mètres carrés. La chambre la plus chère que j'ai vue, c'est l'EHPAD Île de la Jatte qui a ouvert il y a un an et demi. On commence à 9 200 euros la chambre, 12 000 euros la plus chère. Et pour ça, vous n'avez pas de balnéothérapie ou quoi, vous avez juste la chambre. Mais une équipe, par contre, nombreuse et dynamique. La moyenne d'âge dans les EHPAD ne cesse d'augmenter. On est à plus de 80 ans, 84 en général, pour plus de 80 résidents aussi en moyenne, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas rentable en dessous de 75. Et donc maintenant, même les EHPAD qui ouvrent leurs portes, y compris en région parisienne, on est à plus de 100 personnes. Je parle pas de patients, hein. Parler de résidents, puisqu'ils habitent dans les EHPAD, c'est important. Un autre chiffre, combien de Français sont abonnés à la téléassistance? Pas beaucoup, mais quand même, combien? 1%? Pas mal. On est à 450 000 Français aujourd'hui. Alors c'est important de dire, c'est à un instant donné, puisque malheureusement c'est une population de plus en plus âgée qui s'équipe de téléassistance, donc qui décède aussi. On sait qu'il y a un tiers à peu près, obligatoirement, il y a un tiers de la population, des clients par an des téléassisteurs qui est renouvelé, forcément. Bon, 450 000, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Pas beaucoup par rapport aux besoins de ces personnes. Beaucoup par rapport à d'autres pays. Au Canada, on n'est qu'à 1% de la population, c'est même pas 100 000 personnes. Bon. Et par contre, par rapport à l'Angleterre, on est très en retard. En Angleterre, il y a plus d'1,5 million de personnes qui ont la téléassistance, mais avec des cofinancements publics-privés beaucoup plus élaborés que chez nous. Alors j'aime bien finir par... ça vous donne un ordre de grandeur de la taille de notre secteur en France. Les plus grosses boîtes de notre secteur, fabricants ou distributeurs, vous avez une idée de l'ordre de grandeur de leur chiffre d'affaires aujourd'hui? Parmi ceux des acteurs qui étaient aussi présents à ce salon. Le plus gros que je connais, c'est Easy Shower, qui fabrique des douches, des douches italiennes et des baignoires à porte. On est à 12 millions d'euros par an, l'ordre de grandeur. Rapidement, on passe à des boîtes autour de 5-6 millions d'euros. Le plus gros distributeur dans le secteur, c'est Celiatis, avec 5,5 millions à peu près de chiffre d'affaires. Et très vite, on passe à des boîtes plutôt qui font 1 à 3, et voire même moins d'un million d'euros. Et l'immense majorité des entreprises de notre secteur sont des start-up qui font quelques centaines de milliers d'euros. C'est juste pour planter le décor. Et même quand vous prenez un acteur comme Legrand, qui est un des pionniers du secteur, des gros acteurs, leur business unit dédié à la silver economy, à la science à l'autonomie, peu importe comment on l'appelle, au mieux, c'est 2,5 millions d'euros, pas plus. On est sur encore un secteur en devenir, un fort potentiel, mais pas encore un secteur super développé. On ne parle pas, vous avez compris, de giron technologie, c'est un mot un petit peu barbare, je préfère parler de technologie pour l'autonomie, d'aide technique, d'aide technologique. Globalement, ces technologies peuvent être portées par la personne elle-même, le fameux médaillon de téléassistance, le bracelet montre, la balise sur le côté, peuvent être insérées dans son lieu de vie. On a des acteurs ici présents qui font des sols intelligents pour détecter les chutes, qui font des capteurs de présence ou de la domotique au sens large. Et il ne faut pas oublier que les villes, l'espace public s'équipe aussi en technologie dans le monde du handicap. Les feux sonores, par exemple, vous savez, les feux qui sonnent pour aider les personnes malvoyantes ou non-voyantes à traverser la rue, à titre d'exemple, d'information, ça coûte plus de 30 000 euros d'équiper un carrefour en feux sonores. Rien qu'à Paris, 8 000 carrefours ont été équipés, 2 200 non-voyants recensés. Vous comprenez le problème de la loi sur l'accessibilité pour tous. C'est normal, compréhensible d'un point de vue humain. D'un point de vue économique, c'est compliqué. C'est pour ça que l'État n'arrête pas de repousser les échéances de cette loi actuellement. Un panorama synthétique des technologies pour l'autonomie, je le fais par finalité, je trouve que c'est le plus intéressant. La communication, c'est le premier besoin, la première attente. Communication, lien social au sens large. Après la santé, après la sécurité et après le confort. C'est bien le confort. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a pas envie de s'amuser, d'avoir du loisir ou quoi. Et de plus en plus de technologies pour les seniors sont sur cette dimension du jeu. Alors, stimulation cognitive, on en voit depuis longtemps, mais là, je vous parle même d'un chef d'orchestre qui crée des solutions de musicothérapie pour le domicile. Je trouve ça assez intéressant à explorer. Les quatre facteurs clés de succès, pour moi, sont toujours les mêmes depuis 10 ans. Les technologies doivent être un complément, jamais un substitut à l'être humain. Si une technologie fait qu'il y a moins de services à la personne qui vient à domicile, qu'on voit moins son proche, c'est pas la peine. Deuxièmement, on ne met pas entre les mains de papy ou de mamie des technologies qui ne sont pas mûres et éprouvées. C'est déjà tellement dur de convaincre mamie 87 ans, Odile, je ne sais pas, par exemple, d'utiliser une technologie, sachant que son aidant familial principal, sa fille aînée ou pas, peu importe, mais qui a plus de 60 ans, n'est pas forcément beaucoup plus technophile qu'elle non plus. Les convaincre d'utiliser l'informatique, c'est déjà pas mal. Donc, encore une fois, mettez des choses entre les mains de ces personnes, des choses robustes qui marchent. Si ça ne marche pas, ce n'est pas la technologie en question qui est foutue. Elle n'utilisera plus jamais aucune technologie. En tant qu'évaluateur, on le vit tous les jours. Après, ne pas oublier l'importance de la notion d'acceptation, d'acceptabilité. Si la téléassistance, comme on dit, dans un cas sur trois, quand la chute arrive, n'était pas portée par la personne, c'est parce que c'est moche, c'est parce que c'est stigmatisant, c'est intrusif. Les technologies les nouvelles qui sortent et qui sont beaucoup mieux, beaucoup plus adéquates, adaptées, sont beaucoup plus portées. Et enfin, le coût, c'est pas rare en EHPAD. Nous, on arrive, on fait des missions d'accompagnement pour les directeurs d'EHPAD, de ces maisons de retraite médicalisées. On arrive, on voit du RFID, des technologies de radiofréquence, donc de la domotique par radiofréquence installée. L'année suivante, du Wi-Fi ou l'inverse dans l'ordre installé. Enfin, des technologies à 40 000 euros pièce qui auraient pu en fait être substituées l'une à l'autre et qui sont installées parce que chaque acteur arrive avec son package complet et vend toute la sauce, tous les ordinateurs, les postes informatiques, c'est pareil. Bon, l'interopérabilité, c'est une notion super importante. Combien d'acteurs, on parle des capteurs physiologiques sans arrêt et leur interopérabilité avec les box qui sont sur le marché. Combien d'acteurs, honnêtement, sont interopérables entre eux aujourd'hui? On n'a que des solutions propriétaires les unes par rapport aux autres. Donc, ça serait bien qu'on commence à se coordonner tous ensemble via un syndicat, même le SNITEM. Le SNITEM veut réfléchir là-dessus, mais on en est encore très loin. Une autre tendance du secteur, le maquis, le millefeuille, comme vous voulez, des centres experts et sociétés savantes. Alors c'est très bien pour les consultants comme moi, parce que vous aider à vous dépatouiller là-dedans, ça me fait bien vivre. Mais en pratique, après ce qui est bien, c'est que dans n'importe quel domaine, vous avez un expert. Vous voulez travailler sur Renault veut adapter ses véhicules, ou on travaille sur un fauteuil roulant, on va voir le CEREM. Pour les problèmes de vue, on va voir le CERTAM. Pour les fauteuils roulants, c'est Garche, ainsi de suite. Bon, il y en a plein. J'ai une cartographie en interne de plus de 600 acteurs entièrement, enfin, qui ont le pied vraiment dans le monde de la Silver Eco. Après, pour les identifier précisément, ce n'est pas toujours facile. Alors, est-ce que le marché est en croissance, comme certains consultants marketing veulent le dire? Là, c'est Serrières, un de nos partenaires, Frédéric Serrières, qui faisait ses prévisions de vente. Je pense que si le marché aujourd'hui était déjà à plus de 500 millions d'euros en Europe, ça se saurait. Après, ça dépend un peu du périmètre. Si on met les tensiomètres, les prothèses auditives ou autres, peut-être. Mais si on est vraiment sur la gérontechnologie, comme on l'entend sur ce marché aujourd'hui, on enlève un zéro et on est plus proche de la réalité. En termes de besoins, je ne sais pas combien d'entre vous sont des créateurs de produits, mais même si vous êtes distributeurs de produits, pour moi c'est la même chose. Pensez toujours aux différents acteurs de la chaîne d'utilisation, d'usage du produit ou du service associé. Parce qu'un produit sans un service, en général, c'est un peu dommage. La personne âgée elle-même. Alors, là, je prends le cas des personnes Alzheimer. Alors, fugue, c'est volontairement pour être provocateur. Il faut mieux parler d'errance. La fugue, c'est volontaire. Elles ne vont pas sortir de l'établissement forcément volontairement ou du domicile et se perdre. Dans le cas également des personnes Alzheimer, c'est intéressant de voir qu'entre la personne âgée qui veut juste sortir de l'établissement où elle est, entre guillemets, inconsciemment enfermée, entre l'équipe de professionnels qui n'a pas le temps de surveiller toutes les personnes, la nuit en particulier, et entre l'entourage qui veut se déculpabiliser et le mieux pour son proche, ce qui est intéressant de voir, c'est que les besoins, les contraintes sont parfois contradictoires entre eux. Et ce qui est important, c'est de comprendre que dans les technologies pour l'autonomie, il n'y a pas de panacée. À chaque fois, on trouve le meilleur compromis, entre guillemets, si je caricature, il y a la sécurité et la liberté, et on trouve le meilleur compromis pour chaque personne. Autre mythe que je veux casser d'emblée, on dit toujours, enfin, il y a beaucoup d'acteurs qui arrivent, qui viennent nous voir en disant « je vais vendre aux prescripteurs, je vais vendre aux proches, aux enfants ». Ça ne marche pas comme ça, et plus on arrive dans la génération des baby-boomers, plus c'est vrai. Les gens veulent choisir eux-mêmes. Même Alzheimer, stade 1 de la maladie, il veut choisir lui-même ses produits. On a une génération qui veut avoir le choix, et même regarder les catalogues des, je sais pas, les croisiéristes, les voitures comme Audi, les voitures de marque. Les catalogues, maintenant, on ne trouve pas le produit sur une page, on trouve 3-4 pages parce qu'il y a plein d'options. C'est parce que la génération des baby-boomers veut pouvoir choisir plein d'options. Les catalogues de croisières, on n'est plus sur des croisières où c'est le rapport qualité-prix qui comptait et des croisières collectives. On est plutôt sur des croisières individuelles où on choisit un peu le luxe pour soi. Il y a un changement de culture très fort et il faut en tenir compte si on veut pouvoir réussir sur ce marché-là. Bon, donc les dents, pour finir, faut pas oublier que les dents prescripteurs et les dents familiales, il est souvent, c'est une aide à la personne âgée bien sûr, mais il est souvent en opposition parce que lui faire prendre ses médicaments à son proche, c'est pas marrant, il a pas envie de les prendre. Le faire aller voir tel professionnel de santé, voire même lui dire maintenant faut que tu conduises, enfin tu peux plus conduire ta voiture, tu te mets en danger, tu vas mettre en danger l'environnement, les autres personnes, tout ça c'est difficile à entendre pour la personne, ça les met en contradiction et dans beaucoup de cas on est en opposition avec nos proches âgés, on n'est pas dans une démarche de synergie sur le choix de produits technologiques. Pour ceux qui ont vu le film Gran Torino, je ne sais pas si ça vous parle, la fille offre au héros un téléphone à grosse touche, Clint Eastwood a un téléphone à grosse touche, il lui balance à la figure alors qu'elle voulait bien faire, juste parce qu'il dit « Mais attends, mais je suis pas handicapé, arrête tes... » Enfin, je vais pas dire de gros mots, bien sûr, mais « Arrête tes bêtises, c'est même pas possible, je veux pas de ça pour moi. » Oubliez pas aussi que qu'est-ce qu'on appelle un vieux, un senior, une personne âgée? C'est quelqu'un qui a 15 ans de plus que nous. On n'est jamais vieux. Dans nos évaluations, on a parfois des retours marrants. Une personne de 82 ans qui nous dit « Oh, vous avez vu comme ma voisine, l'autre panéliste de notre évaluation, qui a 6 mois de plus à peine, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau en termes de rides ou autre, vous avez vu comme elle a pris un coup de vieux, c'est terrible. Qu'est-ce qu'elle a l'air vieille maintenant ? Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau, mais on ne se projette pas du tout dans son vieillissement. On voit celui des autres et pas le sien. » Bon, tout ça peut vous paraître un peu évident, mais bon. J'avance un peu, je vais passer là-dessus. L'environnement politique en France, on en parle souvent, c'est super simple, hein. Non, c'est très compliqué, mais il n'y a que deux lois à retenir importantes aujourd'hui, en attendant la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, mais les décrets d'application ne sont pas encore parus, la loi existe, mais pas les décrets. Les deux lois plus importantes à mon sens, loi de 2002, c'est en gros la bientraitance des papy-mamies, c'est la charte de bientraitance dans les EHPAD et autres. Et la loi de 2005 qui régit cette fameuse accessibilité pour tous, il y a plein d'applications dans le quotidien. Tous nos ascenseurs, nos cages d'ascenseurs, on a dû tous les refaire pour qu'il y ait du braille sur les touches, les numéros des étages. Les banquiers sont tous en train de refaire le distributeur parce qu'obligatoirement on doit avoir des distributeurs à 3 hauteurs différentes, des prises jack pour les malentendants, pour qu'ils puissent connecter leurs écouteurs au distributeur. On ne le sait pas, mais il y a plein d'applications dans notre quotidien. Jusqu'à la Poste qui doit refaire tous ses sites web pour qu'ils soient accessibles à des personnes non-voyantes. ça coûte très cher tout ça, mais c'est important. Bon, la loi d'adaptation au vieillissement, je ne ferai pas de critique aujourd'hui, on attend de voir ce qui va se passer. Il y a plein d'espoir, mais s'il n'y a pas de budget, de toute façon, on aura beau avoir une loi sympathique, ça n'aura pas une incidence très forte sur le secteur. Et sans oublier le fait que tout se régionalise actuellement, les régions seront de plus en plus de façon en charge et dépositaire de la santé et du médico-social. Pour l'instant, c'est les conseils généraux qui ont le pouvoir, mais maintenant que les ARS existent, elles s'occupent principalement pour l'instant du secteur hospitalier sanitaire, mais bientôt elles vont arriver, c'est évident, sur le médico-social. Concrètement, l'accessibilité pour tous, c'est concret. Ça veut dire par exemple qu'une borne d'accueil en EHPAD, ça doit ressembler à ça. Vous avez vu beaucoup d'EHPAD avec des bornes d'accueil où déjà le fauteuil roulant peut mettre ses jambes en dessous, on doit pouvoir rentrer en dessous, etc. Il n'y en a pas du tout qui sont équipés comme ça. À partir du 1er janvier 2015, n'importe quel visiteur d'un proche qui est en EHPAD ou n'importe quel résident de l'EHPAD peut faire un procès au directeur si son établissement n'a pas tout ce matériel, ses adaptations, etc. Enfin, c'est pas anodin, tout ça. On a beaucoup d'acteurs sur ce salon qui étaient dans le domaine des boucles magnétiques, de l'amélioration de l'audition des personnes. Il y a Tinteo, par exemple. Bon, il y a un vrai marché potentiel, mais c'est comme les prothèses auditives. Aujourd'hui, on estime en France qu'il n'y a que 17% des Français qui ont besoin d'une prothèse qui en portent une. Pour différentes raisons. Ça coûte très cher. En général, il en faut deux. Et en période de crise, beaucoup, quand on les interviewe de personnes âgées, disent qu'en fait, ils gardent l'argent pour aider leurs enfants et tout en cas de chômage, etc. Donc, mais bon, c'est un problème de coût au départ quand même. C'est pas remboursé tout ça. Bon, après, ce qui est génial en France, c'est que quand on travaille dans le champ sanitaire hospitalier, même si on est dans un service de gérontologie ou de gériatrie, basculer dans le secteur médico-social, c'est mal vu. C'est moins bien. Quand on travaille sur les personnes âgées, c'est très rare de basculer sur les enfants, alors qu'il y a plein de choses transposables en termes de métiers, de compétences, savoir-faire. Et franchement, travailler 40 ans en EHPAD, faut vraiment le vouloir. Enfin, faut avoir du courage, hein, quand même. Donc, si on pouvait un peu favoriser dans notre pays la perméabilité dans cette matrice complexe, la première matrice, je vous dis, c'est sanitaire, social. Après, géronto-handicap, c'est une matrice apparente. Enfin, il y a une imperméabilité aussi quasiment totale. Travailler auprès des vieux, c'est pas très auprès des personnes handicapées. Et c'est très mal vu, là aussi, de basculer de l'un à l'autre. Ça arrive, heureusement, mais c'est pas courant. Mais j'espère que cette frontière va disparaître rapidement. Alors, pour ceux qui ont vu La Maison du Mieux Vivre, vous avez peut-être vu le bébé phoque, Paro. J'aime bien en parler, j'en parlais déjà avant qu'il soit distribué en France, mais c'est une peluche toute mignonne qui coûte quand même plus de 3000 euros. C'est un robot bardé de capteurs qui va être vendu en maison spécialisée Alzheimer, accueil de jour éventuellement, mais surtout EHPAD, pour prévenir... Parce que le petit robot, en fait, est capable d'analyser le faciès d'une personne âgée ou pas, mais âgée en particulier. Il y a, les yeux, c'est des détecteurs d'hygrométrie. Donc, quand la personne pleure, il le détecte. Et globalement, j'ai pas le temps de vous montrer la vidéo, mais le petit robot va se mettre à gigoter ses petites nageoires, sa petite queue, faire des petits bruits tout très sympathiques pour rassurer, réconforter la personne âgée et lui redonner un sentiment d'utilité. Notamment, vous avez vu la tétine. En fait, la recharge de la batterie du robot, c'est une sorte de tétine qu'on remet. Donc, comme en EHPAD, c'est souvent des femmes, c'est souvent elles qui s'occupaient des enfants à l'époque, on reprend les réflexes des bébés qu'on avait à l'époque, on se ressent utile, on se reprend dans un âge de la vie où on était utile. Et donc, bon, au Japon, ça marche bien, même commercialement. En France, c'est encore le tout début, je ne pense pas qu'il en ait vendu encore beaucoup. Culturellement, néanmoins, un robot à plus de 3000 euros en EHPAD, c'est pas encore tout à fait rentré dans les mœurs. Après, je vous parle d'un sujet tout aussi fleuri que la robotique, c'est les toilettes. Les toilettes au Japon, Toto, non, Toto, ça vous parle? Au Japon, vous savez que les toilettes, c'est une institution. Déjà, on fait visiter ces toilettes parfois avant de faire visiter le salon. Toilettes, c'est au jet d'eau. Il n'y a pas de papier. En soi, c'est super intéressant parce que jet d'eau, quand on n'a pas l'usage de ses membres supérieurs, ça peut être utile. Alors certains disent qu'on en sort avec les fesses mouillées, pas propres. Bon, c'est la vérité, ça dépend des produits qu'on prend, il y a du bon et du moins bon. Mais c'est pas ça dont je voulais vous parler. Là-bas, comme on passe beaucoup de temps aux toilettes, il y a des industriels qui ont créé des connectivités avec différents capteurs. Là, par exemple, on peut prendre sa tension. On a des capteurs de glycémie, Donc les diabétiques peuvent faire à la fois son diagnostic quotidien et sa petite dose d'insuline sur le trône. Là, c'est encore gentil. Toto, qui est un des leaders du marché, est allé plus loin. C'est pour vous montrer un peu ce qui pourrait arriver un jour en France. Je ne pense pas que ce soit super accepté, mais le machine to machine, voilà jusqu'où il va. Là-bas, en fait, je vais le dire poliment, hein, mais on analyse votre production locale dans le cadre de la grosse commission, et automatiquement, sur le frigo de mamie, apparaît un message « Bonjour Madame Dupont, vous manquez de fibres ce matin. Il serait bien que vous mangiez des épinards. » Ça, ça marche pas mal déjà. Et en option maintenant, à Kobe, ils proposent en expérimentation actuellement un service de e-commerce qui vous livre automatiquement, deux jours plus tard, les poireaux qui vont bien. Bon, culturellement, on n'en est pas tout à fait là quand même. Bon, après, au Japon, je peux vous parler de trucs positifs aussi. Vous savez, les consoles de jeux avec les katas de mouvement comme la Kinect. Chez nous, bon, les vieux, vous avez vu, à 45 ans, à Pôle emploi, on est un senior, super motivant. Et on est plutôt mis au placard que valorisé. Là-bas, on parle de trésors vivants. Là-bas, par exemple, les sculpteurs, les maîtres sculpteurs, vous savez, ne partent jamais vraiment à la retraite. On a pris la Kinect, on a modélisé les mouvements d'un maître sculpteur pour faire un vase de tel type. Et en fait, l'examen maintenant, pour les apprentis sculpteurs, l'examen de passage, on leur remet la Kinect, on leur montre le vase du maître, et il faut qu'ils fassent le vase le plus proche possible. Donc on utilise une console de jeu pour faire un transfert de compétences et de savoir-faire... entre maître, senior... Enfin bon, je trouve ça intéressant. En France, les consoles de jeux, au mieux, c'est... S'il y en a un qui a créé... je peux t'avoir vu un industriel français qui a créé une techno intéressante. C'est un jeu de pirate. Et en fait, l'idée, c'est qu'on l'utilise à deux. La personne âgée contrôle juste le bateau, les mouvements du bateau, et les petits-enfants, il est censé jouer avec les petits-enfants, contrôlent les personnages sur le bateau. C'est vachement futé comme lien intergénérationnel. Mais malheureusement, même quand un produit est bon comme ça, pour l'instant, ils ont du mal à trouver leur marché, ces acteurs-là. C'est toujours le même problème. Bon, au-delà des technologies, là aussi, pour passer assez vite, l'innovation, elle est politiquement techno. Là, on a par exemple un stand... J'ai des parts chez personne, hein, mais on a un stand un peu plus loin qui parle de troubles bucco-dentaires. Je ne sais pas si vous avez vu. Ils vendent ça aux EHPAD ou aux particuliers pour nettoyer le dentier ou autre. C'est glauque, hein, dit comme ça, mais c'est super utile. Et on n'avait pas beaucoup de solutions aujourd'hui. Il y a plein d'acteurs, notamment des téléassisteurs, des services à la personne, qui commencent à essayer de réfléchir à des... services connexes à proposer, notamment dentistes à domicile, opticiens, dont je voulais parler de prévention des troubles bucco-dentaires, musicothérapie, enfin il y a plein de choses qui commencent à sortir et qui sont tout à fait intéressantes, pas que dans la technologie. Vous avez déjà vu ces trucs-là en nutrition? C'est les imprimantes 3D alimentaires. On est capable, aujourd'hui déjà, mais ça prend beaucoup de temps et ça coûte très cher, un papy le matin dit dans l'EHPAD, je veux manger à midi des pâtes à l'orange, à la myrtille, on peut le faire pour du riz, pour des pâtes, enfin, ou pour du pain. On est capable de vous faire de la bouffe de la forme que vous voulez, de la couleur que vous voulez, de la texture que vous voulez. Donc vraiment, c'est la personnalisation de la nutrition à l'extrême. Moi, je trouve ça génial en EHPAD potentiellement. Seulement aujourd'hui, l'imprimante 3D coûte 16 000 euros et il faut 3 heures pour réaliser l'impression d'un repas. Mais bon, ça va s'industrialiser, on va arriver à des choses bien plus intéressantes. Bon, après, si vous avez envie du support, il suffit de me demander à la fin, là, je vous les enverrai bien sûr, je vais passer très vite, j'ai pas beaucoup de temps, mais quand on voit que même un acteur comme Evian a sorti pour les retraités un petit capteur RFID, en fait, c'est des tags qu'on met sur les packs de bouteilles, et en fonction on vérifie qu'on boive assez de bouteilles d'eau, surtout en été, c'est pour la canicule. Les acteurs sont tous sur des technologies un peu connectées. Ils réfléchissent tous à... Enfin, de plus en plus de grands comptes essayent de voir quoi faire dans la silver economy et comment y rentrer de manière astucieuse. Dans le domaine du transport et de l'hébergement, je vois qu'on a quelqu'un d'ICAD dans la salle. On a tout un process sur le guide des villes amis des aînés. Il y a plein de choses vraiment géniales qui sont faites actuellement. Je voulais juste vous citer un exemple aussi. Là, Middle, c'est un industriel qui crée des fauteuils roulants temporaire qu'on va déployer dans les centres commerciaux, les supermarchés, parce qu'on n'est pas forcément... On peut avoir besoin de se poser, voire de se fauteuil roulant temporairement, juste parce qu'on est fatigué, on est un senior qui a déjà beaucoup marché. Bon, de plus en plus, on va voir ça. On commence à le voir dans des grands magasins de matériel médicaux, paramédicaux. Bon, en supermarché, ça apparaît. Chez Cora, par exemple, je ne sais pas si... Bon, dans le sud de la France, il y en a quelques-uns... grands centres commerciaux qui déploient ce genre de solution. On a aussi, je ne savais pas qui serait dans la salle, on a aussi effectivement des acteurs qui innovent dans le domaine de la salle de bain, de la cuisine. Vous savez que les cuisines adaptées avec des mobiliers à hauteur variable, c'est extrêmement utile, c'est encore méconnu, sous-utilisé. Ça marche aussi bien en EHPAD qu'à domicile. Il y a plein de solutions géniales. La MAE, c'est un acteur normand qui travaille très bien. Mais bon, il y en a plus. Enfin, encore une fois, les gens hésitent à se tourner vers eux alors qu'il y a plein de trucs super à faire. Et c'est vraiment un changement dans la vie de tous les jours. Alors, je passe rapidement sur les 5 tendances un peu clés pour moi du secteur. Tout d'abord, on assiste à une évolution très importante dans le monde de la téléassistance. Jusqu'à présent, la téléassistance, on doit, même si c'est bien foutu comme Assistel, c'est un acteur français qui est à la fois fabricant de son matériel et les plateaux d'assistance, il l'a en interne, c'est ses salariés qui sont sur le plateau. Pourquoi c'est bien? Parce que tous les problèmes d'usage, d'acceptabilité des produits, le plateau d'appel les remonte au bureau d'études en temps réel. Et donc, ils arrivent à des produits qui sont plutôt sympas. Néanmoins, on est encore sur la téléassistance classique, c'est-à-dire que je dois appuyer sur un bouton. Et vous savez bien que dans certains cas, quand on a chuté, quand on est en panique, quand on est dans sa douche, même si c'est imperméable, la plupart des médaillons, les papy-mamies, ils comprennent, enfin, ils ne réalisent pas ou ils oublient que c'est imperméable, ils n'osent pas le porter dans la douche, ils ont peur de le casser. Donc on arrive, et c'est la tendance vraiment importante au niveau de l'État, des caisses de retraite d'Agir Carco, c'est mon équipe qui accompagne Agir Carco sur le volet technologique du plan domicile. Globalement, tout le monde, les caisses de retraite, les mutuelles, veulent des solutions beaucoup plus automatiques, proactives. Alors, j'aime appeler ça la téléassistance 2.0. C'est la téléassistance qui va être automatique, qui n'impose pas qu'on appuie, qu'on déclenche proactivement le médaillon, l'alarme ou quoi. On arrive même, vous avez dû voir, Basile, l'acteur de téléphonie senior, qui a sorti une offre de téléassistance mobile. L'avenir, c'est ça. C'est le fait que la téléassistance soit sur le smartphone ou pas, par smartphone, peu importe, sur le téléphone en tout cas, parce qu'il y a une puce GPS dedans, et que c'est par ce biais-là qu'on puisse appeler au secours. Il ne faut pas que la téléassistance ne soit segmentée, ne soit limitée qu'au domicile, c'est dommage. Et beaucoup d'acteurs, je pense, n'ont pas pris le tournant assez vite, et en fait, c'est des nouveaux entrants qui vont, à mon avis, rafler tout le marché de la téléassistance parce qu'ils font la téléassistance mobile. Il y a Doro qui fait des choses aussi intéressantes là-dessus, mais qui commence. Et c'est pas anodin non plus, des acteurs comme Linker Service, il y en a plusieurs maintenant concurrents sur le marché en France, c'est des acteurs qui mettent des caméras chez vous. Pourquoi des caméras? Parce que pour eux, détecter une chute, un incident de la vie quotidienne, le seul qui peut le détecter intelligemment et à 100%, c'est un être humain. Donc pour eux, il faut absolument qu'il y ait une caméra chez toutes les personnes âgées pour pouvoir vérifier ou pas qui a besoin d'envoyer les pompiers, etc. Le problème, c'est que quand on a une offre de caméra à domicile qui commence à 180 €, même si c'est utile, encore une fois, ça répond à un besoin, il n'y a pas de meilleure façon de le couvrir aujourd'hui, en termes d'acceptabilité en France, en tout cas, ça ne marche pas bien. Par contre, c'est amusant, cet acteur qui est français, il exporte au Québec. Et là-bas, il n'y a pas les mêmes problèmes culturels sur la vidéo, il n'y a pas les mêmes problèmes d'acceptabilité, là-bas, ça marche. En France, pour l'instant, j'ai l'impression que le marché est lent à décoller. Ça s'est déployé aussi en EHPAD, par exemple, pendant les transitions, les transmissions ciblées. Vous savez, quand les équipes, l'équipe de nuit passe la main à l'équipe de jour pendant une demi-heure, il faut bien transmettre les informations. Elles surveillent moins les personnes âgées de la résidence, de l'accueil de jour ou quoi. La solution peut être utilisée que pendant ces périodes-là très ponctuelles de transmission ciblée. Et le prix est adapté en conséquence. La deuxième tendance importante pour moi, c'est ce que j'appelle le « quadruple play ». Globalement, Triple Play, vous connaissez, Boxfree, SFR ou autre, ou Orange, qui fait la téléphonie, Internet, la télévision. Vous savez que dans les grandes villes, c'est peut-être pas vraiment milieu rural, mais dans les grandes villes, on a fibre optique, on peut faire passer beaucoup plus d'informations par le câble, par le tuyau, que simplement ces trois actions, ces trois activités. Et en Espagne, c'est pas anodin, il y a déjà des chaînes de télé dédiées seniors qui passent par les mêmes tuyaux. Bon, globalement, tout ça pour dire que aujourd'hui, on trouve de plus en plus de box ADSL chez les personnes âgées. On peut apporter plein de choses en plus par cette box. Pour moi, la box est un cheval de Troie chez les seniors. Il y a quand même un problème avec tout ça. C'est que la box, c'est quand même pas un objet du quotidien des seniors pendant qu'ils étaient dans leur vie active, etc. Ils ne sont pas habitués à la box. Et moi, je pense, par exemple, alors j'ai mis la Wii, mais ça peut être une autre console de jeu plus moderne. La Wii, elle a des ports USB. Dans un port USB, je peux mettre une clé 3G. Je transforme une Wii en box ADSL. Enfin, c'est pas en box ADSL, mais en tout cas, en passerelle Internet. Il y a deux acteurs espagnols, par exemple, qui vendent maintenant des Wii dédiés seniors avec des chaînes Wii. Donc, en fait, on accède à sa télévision par la Wii, on change même les chaînes de la télé par sa Wii, mais en plus, on accède à son pharmacien, on accède à des jeux de stimulation cognitive ou questions pour un champion des 30 dernières années, on les a tous sur sa Wii. Je vous ai même mis Edelia, un projet qui a fermé, enfin, mais qui va être réactivé du groupe EDF. Par exemple, connecté à la box ADSL, on peut avoir une petite box EDF complémentaire qui permet de vérifier qu'il n'y a pas de surconsommation électrique. Vous savez que pour un senior, c'est très 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 important de ne pas gaspiller, et en particulier l'électricité. Donc ça, c'est des box qui se développent et qui vont se développer dans le cadre des smart grids pour ceux à qui ça parle. Troisième tendance, là je me tourne plutôt du côté EHPAD, c'est ce qu'on appelle la stimulation multisensorielle, parfois aussi appelée snoozelen, des salles, moi je dis que c'est la boîte de nuit pour vieux, on a des colonnes de lumière, il y en a même maintenant qui ont des boules à facettes, ils ne dansent pas, hein, mais il y a des boules à facettes quand même, on a de l'aromathérapie, des musiques douces, des matelas à eau, globalement, il n'y a pas un EHPAD en France qui vous dira qu'il a de l'argent à investir aujourd'hui dans la technologie, et en même temps, il n'y a pas un EHPAD en France qui ne s'équipe pas d'un snoozelen, parce que si on n'a pas une sorte de salle d'animation comme ça, multisensorielle, à proposer dans sa brochure, ben on n'est pas aussi concurrentiel que le voisin. Et même les EHPAD associatifs sont obligés d'être concurrentiels aujourd'hui. Cette stimulation peut passer par l'informatique adaptée. Là, par exemple, vous avez un produit d'IBM anti-tremblement pour parkinsonien. Essayez de double-cliquer sur un répertoire quand vous tremblez comme ça, c'est pas simple. 55€, une souris qui vous permet d'atténuer électroniquement les tremblements. J'appelle pas ça un gadget, je trouve ça assez utile. Vous avez même des consoles de jeux, alors pas vidéo, mais des consoles de jeux audio pour malvoyants, non-voyants, donc qui marchent en EHPAD et à domicile. Je sais pas si vous connaissez Audimo, c'est une console de jeux entièrement vocale. Elle coûte pas plus de 300€ avec les principales cartouches de jeux. Par exemple, c'est pour jouer aux mots croisés. Aujourd'hui, quand vous êtes proche d'un non-voyant et que vous voulez qu'il joue aux mots croisés, il faut lui lire les grilles 5 fois par toutes les 2 minutes. Ben là, en fait, le proche peut toujours être à côté de la personne qui joue aux mots croisés, mais elle va jouer. En fait, c'est en appuyant sur le bouton au milieu, le bouton bleu, on lui lit les grilles. Donc le côté rébarbatif, répétitif, secondaire, c'est la machine qui le réalise. Bon, je vous ai pas mis dans mes tendances les robots aspirateurs, mais. Même principe, hein. Les robots aspirateurs aujourd'hui, je trouve ça génial. J'y croyais pas trop avant. Quand on achète les bons aspirateurs, donc un bon Roomba, de bonne gamme, etc., pas pour nettoyer le sol, mais pour aspirer la poussière, c'est un carton, ça marche vraiment très bien, nos évaluations sont très positives. Et franchement, plutôt que le service à la personne vienne faire une heure d'aspiro ultra bruyant, plutôt qu'ils viennent lancer l'aspirateur robot pendant la même heure et faire du lien social avec la personne âgée, enfin, je trouve que ça a une valeur bien supérieure. Un robot aspirateur, ça coûte moins de 500€. Bon, tout le monde ne peut peut-être pas se le permettre, mais quand même, ça ne me paraît pas incroyablement cher et ça apporte vraiment un plus à mon sens. Je continue sur mes tendances. On arrive à une distribution de masse. Alors certains me diront que Laurent Merlin en parle depuis 6 ans, 7 ans, mais ça va finir par arriver. Des packs domotiques dans les grandes surfaces de bricolage. Le groupe Boulanger vend déjà de l'informatique pour les seniors depuis 2 ans avec des offres de services à la personne associée, en fait de formation et de sensibilisation à l'informatique. Vous avez peut-être vu ça, c'est un carton. Bedom, la filiale service à la personne, vend en fait t'as 1 à 3 heures par mois sur 6 mois quand tu te mets à l'informatique pour... Et nulle part c'est écrit ordinateur pour vieux. C'est ordinateur pour tous. Ordinateur simplifié. Là aussi, la démarche est intéressante. Les boutiques SFR ont essayé de vendre de la technologie pour seniors. Alors pour l'instant, ça n'a pas trop marché, sauf pour le téléphone Noro, le téléphone dédié senior qui vient de la Suède et qui est un vrai carton en Europe. C'est le 10e téléphone le plus vendu de toute la gamme Orange en France, par exemple, les téléphones Noro. Pas les smartphones, hein. Les smartphones, c'est encore pas trop vendu sur notre marché, mais les téléphones à grosses touches ou à clavier un peu simplifié. Alors je vous ai même mis Crédit Mutuel. Crédit Mutuel a une filiale, c'est pas forcément connu, qui est EPS. EPS, c'est leader en France de l'anti-intrusion. C'est des capteurs domotiques anti-cambrioleurs. anti-cambriolage. Bah, quand tu as de la domotique chez les gens, et dans beaucoup de pièces, c'est pas difficile de rajouter un peu d'intelligence algorithmique à ces capteurs pour les transformer en capteurs de chute, ou en tout cas détecteurs de position immobile couchée. Donc en gros, des acteurs comme ça, BNP vend déjà de la téléassistance, hein, de manière systématique dans ses banques. Banque Populaire commence à distribuer aux cabinets médicaux et paramédicaux des logiciels sur l'accessibilité pour tous. On voit des grands comptes, même des banques, vous voyez, arriver sur notre marché. Nexity aussi s'y intéresse. HSBC a sorti une offre d'assurance dépendance. Parenthèse, excusez-moi là-dessus, il y a déjà 4,3 millions de Français qui ont une assurance dépendance. On a l'impression qu'il n'y en a quasiment pas. Non, en contrat collectif, des contrats qui commencent avec une cotisation à plus de 55 ans, tous les gens chez Orange, chez EDF, dans les grands comptes, publics en particulier, ont une assurance dépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 70 ans, si on se souvient qu'on a une assurance dépendance, qu'on a compris à quoi elle servait, ou si on a du Alzheimer, mais que son proche le sait, ce qui est très rare, hein, c'est pas gagné, je suis désolé, hein, mais il y en a dans la salle aussi, mais bon, je caricature un peu. En soi, c'est un truc génial, mais il faut, si on s'en souvient et tout, pour l'instant, c'est une rente, je caricature, hein, mais c'est une rente financière mensuelle qui est versée en cas de... Si la dépendance survient, demain, je pense que ça sera un peu moins d'argent par mois, et par contre, un peu de technologie, de prévention, d'aide aux aidants, de sécurité, mais plutôt de prévention, parce que l'assurance, c'est ça son intérêt. C'est plutôt que les problèmes n'arrivent pas, c'est plutôt de ne pas payer l'hospitalisation en urgence, parce que l'ambulance, ça coûte cher. Là aussi, une stat intéressante, 55% des trajets en France des ambulanciers se font à vide. Pourquoi? Parce que bah, dans 50% des cas au retour, on n'a pas prévu d'un autre trajet. Et dans 5% des cas en plus, c'est qu'en fait, on a annulé le trajet parce qu'au final, on n'avait plus besoin de l'ambulance. Ça coûte super cher une ambulance. Tu as 2 ou 3 professionnels de santé dedans. Le matériel en lui-même est cher. Vous voyez, c'est des chiffres qui parlent. Et je termine par la Poste, puisque bah, là, on avait une conférence à l'instant là, sur le sujet. La Poste, vous savez, veut occuper ses facteurs de nouvelles façons. Le facteur en milieu rural en particulier, c'est un des acteurs de proximité principaux. La Poste, pour info, c'est 16 000 points de vente. Le jour où la Poste va commencer à vendre des technologies pour les seniors, il y a des chances que, après un certain temps d'adaptation, parce que ce n'est pas des commerciaux, les facteurs et les gens dans les agences, mais si vous avez vu la Poste mobile, on est à 1,6 million d'abonnés en un an et demi. C'est vendu dans les bureaux de poste. Donc ça montre bien qu'il y a un changement de culture parce que les postiers et les bureaux de poste commencent à vendre autre chose que les timbres simplement ou les enveloppes. Bon, et globalement, la Poste commence même à se positionner sur des projets e-santé où en fait il y a des livraisons de médicaments à domicile, vous avez peut-être vu ça, où ils font même la boulangerie maintenant. Dans les milieux ruraux, dans les EHPAD, il y a des EHPAD livrés en pain par les facteurs. Parce qu'en fait, la boulangerie locale a fermé et ne peut plus livrer l'EHPAD en question. Ils faisaient de la pub à la télé récemment là-dessus. Un écosystème qui se structure, là je vous laisserai regarder pour ceux après qui voulaient la présentation. Au niveau de l'offre et de la demande, il se passe plein de choses. Mais je voulais faire un petit focus au niveau de l'écosystème sur cette slide-là. C'est pour dire que l'écosystème de plus en plus tourne, enfin il y a beaucoup de projets en tout cas qu'on observe, qui tournent autour du retour à domicile après hospitalisation, voire même sur les concepts d'EHPAD à domicile. Les acteurs comme Blue Linea commencent à en parler. Globalement, je ne connais pas un seul acteur, un groupement d'EHPAD ou quoi en France, qui n'a pas envie d'essayer de rayonner et de faire profiter sa compétence médicale et paramédicale interne au domicile environnant. Moi, il y a 10 ans, quand j'étais au Secours catholique, on avait travaillé sur un projet avec une fourgonnette qui allait chercher, en fait, c'est un EHPAD à Cannes, on allait chercher les personnes âgées le matin dans les environs pour les amener profiter des animations de l'après-midi, parce qu'il y avait un animateur assez punchy l'après-midi dans l'EHPAD. Et en fait, le matin, en visioconférence, ils pouvaient participer à certains ateliers, par exemple gym douce, peinture ou quoi, et faire ça de chez eux s'ils avaient envie. Bon, là, on va beaucoup plus loin. On a des projets qui commencent à être financés par les ARS. Là, j'ai un projet en Ile-de-France avec l'UNA 94, par exemple, où en fait, on expérimente des packs de technologies qui favorisent un meilleur retour à domicile après hospitalisation. Et ces packs de technologies ne sont pas vendus, ils sont loués. Pas cher. Loués, par exemple, quand vous avez un tapis de marche ou un tapis de course pour la rééducation, c'est souvent super utile. C'est beaucoup trop cher pour être acheté si on n'utilise que quelques mois. Là, aujourd'hui, vous avez des PAC où l'allocation se fait à 30 euros par mois. Le PAC coûtant plus de 1500 euros en lui-même, mais en fait, c'est mutualisé sur beaucoup de personnes. C'est de l'associatif pour l'instant qui distribue. Bientôt, le privé distribuera aussi en location, je pense, parce que les sites de distribution de Girontech, comme Toussergo, Passolo, je sais pas, enfin, il y en a plein, il y en a 12, 13 aujourd'hui sur le secteur, ils vont aller vers, pour moi, la location, c'est pas possible. Et de plus en plus, parce que c'est la crise, on va aussi aller, à mon avis, sur la seconde main. Dans combien de cas on voit un médaillon de téléassistance, un lit médicalisé, un fauteuil roulant qui sert que pendant 3 semaines, 1 mois, même 3 mois? Le matos, il est quasiment neuf parfois. Aujourd'hui, c'est très rare qu'il soit réutilisé, reconditionné et remis à disposition de personnes âgées. On pourrait vendre comme ça beaucoup moins cher. Il y a beaucoup de personnes qui ont des besoins qu'elles ne peuvent pas couvrir parce qu'elles n'ont pas les moyens. C'est pareil, on vous dit tout le temps, vous savez que il y a le PAC Tarim, l'ANA, les caisses de retraite qui vont vous financer l'adaptation des logements quand vous en avez besoin, les douches italiennes, etc. C'est vrai qu'il y a des financements intéressants, mais il faut savoir qu'il faut être capable, en général, d'avancer l'argent pendant 9 mois. Et quand c'est des travaux à 50 000 euros, t'as pas l'argent à... Enfin, beaucoup de gens ne peuvent même pas se le permettre et abandonnent le projet avant la fin, alors qu'on leur rembourserait 90% des travaux et de la main-d'œuvre, enfin du matériel et de la main-d'œuvre, parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens. C'est la même critique qu'on fait sur la partie crédit d'impôt. Pour le matériel d'aide aux personnes âgées ou handicapées, 25% de crédit d'impôt, mais c'est pareil, il faut avancer l'argent. Tout le monde ne peut pas le faire. Quelques retours d'expérience, je passe très vite, mais je trouve assez intéressant. Les baignoires à porte, pitié, c'est pas bien, la baignoire à porte, en termes d'usage, c'est pourri. Tu fous mamie dans la baignoire, tu fermes la porte, tu remplis l'eau, elle prend froid une première fois, tu la nettoies, et puis tu dois attendre que l'eau se vide pour ouvrir la porte. Bon, il y a des sketchs même de comiques maintenant sur ça, hein, je ne sais pas si vous avez vu. Foresti ou je sais plus quoi, mais bon, donc douche italienne, ok, baignoire à porte, sauf cas exceptionnel, on oublie, d'autant plus que, même si vous voulez une baignoire à porte, un artisan peut vous sculpter une porte facilement dans votre baignoire, ça vous coûtera moins de 1000 euros, alors qu'une baignoire à porte, c'est 8000 euros, voire plus en général. On doit tout vous changer. C'est pas utile forcément de tout changer. Là, moi, c'est mes toilettes intelligentes. Alors, c'est d'autres toilettes intelligentes, c'est des toilettes à. En fait, l'abattant est motorisé. Bon, là, pour le coup, je vous le dis tout de suite, c'est un échec commercial total pour l'instant en France. Mais en soi, c'est intéressant. C'est pour aider les personnes en fauteuil à ne pas avoir à appeler leurs proches pour revenir sur le fauteuil roulant, en fait. C'est pas une catapulte, hein, t'es pas projeté sur la porte des toilettes ou quoi. C'est juste un appareil qui t'aide à garder un peu de dignité. Bon, je passe plein d'exemples. La Marguerite de Legrand, c'est un interrupteur à 6 boutons pour Alzheimer. Une fois qu'on a dit le titre, on a dit aussi le problème. 6 boutons, Alzheimer, même en début de pathologie, c'est rare que ça marche. Dès qu'on atteint le stade 2, un bouton, c'est le maximum. Mais c'est vrai que c'était intéressant en soi, c'est de dire, sur un même interrupteur, je commande la lumière, les volets, la température, l'applique de lit, enfin, etc., etc. Bon, ça, commercialement, ça ne marche pas. Autre exemple de produit Legrand qui, lui, est, que moi je trouve génial, mais qui n'est pas connu, donc qui ne se vend pas. Vous avez les interrupteurs avec la lumière, un lot de lumière tout autour. Ça, c'est génial. Même pour moi, c'est super utile. La nuit, tu as même des interrupteurs à effleurement, donc c'est sans contact. Si je gigote la main un peu devant, ça va jouer le rôle du va-et-vient et donc déclencher le signal. Ben, ça, c'est pas super déployé encore et pourtant, c'est utile, c'est pas cher. Là, autre exemple de techno génial et pas connu, ça se branche dans une prise électrique, ça va, il y a un capteur de mouvement, et ça éclaire, en fait, quand il y a quelqu'un qui s'approche de cet appareil, ça éclaire, ça ouvre la loupiote. Et donc ça va éclairer un obstacle. Ça remplace les bornes d'éveil de vigilance dans les bâtiments. C'est génial, ce truc. Franchement, j'en ai encore jamais vu dans une mairie... un musée ou n'importe quel hôpital ou EHPAD. Pourtant, c'est pas mal. Les premières marches, dans beaucoup de cas, on a des chutes de résidents en EHPAD parce que les escaliers qui sont pas sécurisés. Éclairer un peu l'obstacle. On sait même dans certains cas que les démons frontaux, vous savez, ils ont quand la lumière s'allume, ils ont un mouvement de peur et donc ils vont pas aller dans une zone lumineuse. À l'inverse, Alzheimer, vous savez, va dans les zones lumineuses et pas sombres. Bon, donc ça marche pas pour tout le monde, mais bon, ça marche pour certains. Bon, les chemins lumineux de Legrand, bien, pas bien, on est entre les deux parce que c'est super bien en termes d'usage et tout, c'est vrai, il y a un besoin. Le problème, c'est que l'artisan, s'il n'est pas super qualifié, super compétent et super empathique, ça ne marche pas. Et quand un produit est vendu 400 euros et que l'artisan prend 450 euros pour l'installer, ça ne marche pas très bien sur le terrain aujourd'hui. Vous voyez le problème ? Chemin lumineux, c'est utile, c'est utile. On est en train de faire une évaluation sur 2000 personnes âgées, 2200 même, pour voir en quoi, en termes de santé publique, ça vaut le coup que les collectivités, même, les payent à 100% les chemins lumineux. Mais ça ne réduit pas toutes les chutes, hein, ça réduit un tiers des chutes, il ne faut pas rêver non plus. Hein. C'est déjà pas mal. Des acteurs comme Ivago, qui marchent bien, là aussi c'est intéressant. C'est une montre finlandaise de suivi d'activité. C'est une montre qui, au départ, était dédiée au domicile. Bah, en pratique, 95% de leur chiffre d'affaires, c'est les EHPAD. Parce que, globalement, à domicile, personne n'est prêt à payer 60 euros une téléassistance par mois. Même 45 euros Blue Linea pour la géolocalisation. Au-delà de 30 euros, on a un blocage psychologique aujourd'hui en France, même au-delà de 20-25. Au Canada, j'ai fait une conférence hier ici sur le Canada, 80% des offres d'assistance sont à moins de 20 euros par mois. On est quasiment sur de la téléalarme, pas de la téléassistance. Même Philips, qui est le leader du marché, c'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Heureusement qu'il y a aussi parfois des offres plus high qualité, high level. Mais globalement, on est sur des trucs comme ça. Côté téléphonie, je vous ai déjà parlé de Basile, je vais passer vite. Astelia, franchement, c'est un cas génial. Astelia, c'est de la téléassistance dans une montre qui fait aussi combiné de téléphone fixe. Autre avantage, Astelia est vendu en pharmacie. Et comment ils ont fait Astelia ? Il a levé des fonds, le patron, et il a fait de la pub à la télé. Et à la fin de la pub à la télé, il est dit « Vendu en pharmacie, contactez votre pharmacien ». Et il y a plein de gens qui ont vu la télé, qui ont dit « C'est intéressant, j'ai envie de ça, moi », qui sont allés voir leur pharmacien, qui n'avaient jamais entendu parler avant d'Astelia, et il s'est récupéré 600 points de vente local. Alors, il faut quand même plusieurs centaines de milliers d'euros pour faire une campagne à la télé, une campagne de pub. Et aujourd'hui, il a des milliers d'adhérents. Là, il doit avoir 12 000 adhérents, peut-être, sur un modèle récurrent à 100%. Et comme, en fait, comme je vous ai dit, cette technologie, c'est une montre qui fait téléphone fixe. Donc, on peut répondre au téléphone avec sa montre. C'est un truc qui peut être utilisé par des personnes âgées plus jeunes. Donc, il a une durée d'utilisation plus longue, un abonnement plus long, donc il est plus rentable. Bon, après, en vrai, il me dit toujours, sur 600 points de vente, t'en as que 300 actifs. Mais 300 pharmacies, c'est déjà pas mal comme point de vente. Ordissimo, tout son succès industriel pour l'informatique adaptée senior, 250 points de vente. 65 000 ventes en 10 ans. Donc, bon, après, ça vaut pas les ventes d'Oro, par exemple, en téléphonie mobile. D'Oro téléphone mobile, il vend 80 000 téléphones par an. Mais c'est le sommet des ventes en nombre dans la gérontechnologie. Après, je vous parle du secteur explosif de la géolocalisation. Je ne connais pas d'autres secteurs dans toute l'industrie où en 2004, on a 0,1 produit. En 2006, on commence à en avoir quelques-uns. 2008, 2009, 2010, on dépasse même les 60 produits à un moment, 60 boîtes industrielles. Et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 12, 11 peut-être bientôt. Et c'est pas c'est des dépôts de bilan, hein. C'est pas des fusions-acquisitions comme dans le monde des EHPAD aujourd'hui ou comme dans le monde des caisses de retraite. Là, je vous ai mis deux slides entières d'acteurs. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent la route. Hein. Je dis toujours qu'aujourd'hui, à part Géautonome, sur le marché de la géolocalisation, franchement, il n'y a pas grand-chose qui tient la route parce que, ne serait-ce que le simple critère, tu dois le recharger toutes les 24 heures, déjà de base, pour la plupart des personnes d'Alzheimer, ça saoule leur entourage, eux-mêmes ne peuvent pas. Donc, Géautonome, vous savez, c'est la ceinture. Pareil, j'ai pas de part chez eux, mais une ceinture où en fait la batterie dure plutôt une semaine qu'un jour, et c'est vachement moins stigmatisant parce que c'est une ceinture qui ressemble à une ceinture de tous les jours, je trouve pas ça anodin. Je continue, exemple du Memix, là aussi, c'est un chirurgien français qui crée un dictaphone pour vieux. C'est l'aidant familial qui enregistre des messages, c'est pour aider un Alzheimer début de maladie à pas oublier l'anniversaire de son petit-fils, qu'il a rendez-vous chez le médecin ou chez le coiffeur. Ça coûte 100 euros, c'est vendu en pharmacie. En France, c'est pas qu'il vend rien, mais il vend pas beaucoup. En Angleterre, en Allemagne, au Danemark, il vend 10 fois plus qu'en France. Pourquoi ? Parce que c'est un produit... Le médico-social, on paye pas pour le médico-social, on paye pas pour du service comme ça. Là-bas, on paye parce qu'on en a besoin. Ici, il faut qu'on nous l'offre. Faut que ce soit... En fait, les gens appellent leur caisse de retraite, elles leur payent pas, donc ils veulent pas. Enfin, je caricature volontairement, mais... Alors, il y a des cas encore pires. Je ne sais pas si vous savez, les crames les caisses régionales d'assurance maladie parfois subventionnent des gérontech. Les pilules électroniques, vous savez l'appareil qui tourne, c'est motorisé, ça tourne alors programmé à l'avance pour qu'on prenne tous ces médicaments dans la journée, quand on a 8 médicaments, 9 médicaments ou quoi. Ça coûte entre 75 et 220 euros. La CRAM, Rhône-Alpes, je crois, si je ne me trompe pas, rembourse à hauteur de 200 euros les pilules électroniques. Mais ce n'est pas connu, personne ne les prescrit. Même avec ça, franchement, il en vend quelques centaines de pièces par mois, l'industriel, pas plus. Alors que c'est remboursé à quasiment à 100%. C'est pas parce que c'est remboursé que ça va marcher. Il faut que ça soit pas trop cher ou remboursé, il faut que ça soit bien marketé, il faut que ça soit prescrit par des professionnels de confiance. Là, j'ai formé des artisans chauffagistes à la gérontech, ça peut paraître étonnant, mais parce que ton chauffagiste, quand il installe chez Odile une chaudière, ça dure une heure et demie, pendant l'heure et demie, mamie, elle est derrière lui, pendant une heure et demie, il crée la confiance et il peut lui parler d'autre chose. Lui dire, t'as pas pensé à une cuisine adaptée parce que je vois que ta cuisine, elle est quand même... elle n'est pas tout à fait au point pour toi. T'as pas pensé, ah, je vois bien que tu boites et tout. Est-ce que tu as pensé à tel truc ou tel autre? Je continue. Là, j'ai une belle histoire. J'en ai quelques-unes quand même belles. La Froggy Loop sur le marché, c'est comme Nespresso. J'aime bien dire, c'est comme Nespresso. Dans l'autre sens d'ailleurs, c'est moins cher. Nespresso, le café, personne n'y croyait, ça cartonne. Là, c'était le marché des télégrandisseurs. Pour lire son journal, payer ses factures EDF, il faut pouvoir les voir. Quand on ne voit pas très bien, on a besoin d'une loupe numérique. Jusqu'à présent, les acteurs vendaient à plus de 2 000, 2 500 euros un produit en général avec un écran ou avec une télé. Lui, il a dit « Je crée juste une petite grenouille. Œil gauche, on, œil droit, off, la langue pour la mise au point. C'est un truc qui va faire marrer les petits-enfants. Je ne vends pas l'écran avec, je me connecte en S-Vidéo ou en Péritel sur la télé ou sur un écran d'ordinateur. » Je vends ça 1000 euros, beaucoup moins cher que tout le monde, et j'ai le culot de le vendre qu'en e-commerce, pour des gens qui ne voient pas bien, que sur Internet. 10 000 ventes en 3 ans à 1000 euros pièce. Il a révolutionné le marché de la vue. Ce gars-là, tout seul, sans salarié, il a levé plus de 2 millions d'euros. J'en connais pas beaucoup qui ont réussi ça sans salarié. Bon, donc il y a des belles histoires quand même. Là, intéressant aussi, une marque de luxe, Grande Audition. C'est le premier en France à avoir sorti les lunettes auditives, lunettes avec prothèse auditive dedans. Optique 2000, depuis, a créé une offre un peu plus pertinente, parce que le problème de Grande Audition, c'est que quand je fais ça, eh ben, je suis aveugle et sourd, parce que la prothèse, la branche, elle ne s'enlevait pas, on ne pouvait pas la mettre que dans l'oreille. Optique 2000 a des branches maintenant qui se séparent et qui peuvent servir que pour l'audition. Paire de lunettes, prix d'entrée 3 500 €. C'est très cher, mais ça reste moins cher que les lunettes verres progressives plus les deux prothèses. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils n'en vendent pas beaucoup, ou voire pas du tout. Mais par contre, la fondatrice m'avait dit que c'était génial pour eux, parce qu'en fait, ils ont fait le buzz avec cette offre innovante. Ils ont beaucoup de seniors qui sont venus, ou d'aidants qui sont venus voir, découvrir ces lunettes auditives, et qui sont repartis avec des lunettes verres progressives normales. Donc, commercialement, ce n'était pas inintéressant. Bon, là, oui, c'est un succès complet. Les jardins d'Arcadie l'ont compris. Les jardins d'Arcadie, c'est des résidences seniors et domiciles collectifs. Ils font venir Julien Lepers et ils font jouer les seniors à la oui à chaque fois qu'ils ouvrent un nouvel établissement, une nouvelle résidence. Et c'est un carton à chaque fois. Vu à la télé, le pouvoir sur la population âgée, il est réel. Même si tu as été sur Télématin, Télé-Shopping ou quoi, c'est puissant. La Wii aussi, alors Wii Fit, là c'est le grand-père de ma femme. Il y a 3 ans, les cousins de ma femme lui ont offert la Wii avec la Wii Fit. Ils ont joué avec à Noël, le soir même. Premier jeu, c'était Mario Kart, les voitures de course. Échec complet, beaucoup trop compliqué pour lui. Il était en sens inverse tout le temps. Vous savez, il y a des coquilles de tortue, des carapaces de tortue là, pour tuer ses ennemis. Il ne comprenait rien. Juste après, ils ont joué à la Wii Fit, au jeu d'équilibre. La Wii Fit, c'est le jeu principal, c'est un plateau, tu as une bille, tu as un trou dans le plateau, il faut, avec son centre de gravité, faire en sorte que la bille tombe. Ça vous parle, hein? Il faut en sorte que la bille tombe au niveau du trou du plateau et pas sur les côtés. Mais en fait, il fait tout le temps attention à ne pas tomber, ce papy. Il n'était jamais tombé, mais il fait attention à ne pas tomber. Donc son équilibre, il le maîtrise beaucoup mieux que les cousins en question. Il les a éclatés au jeu, et quand ils sont partis de la soirée, apparemment, il leur a dit « Revenez dans 20 ans ». C'est ça l'estime de soi de la Wii. Le succès de la Wii pour les seniors, c'est ça. Alors, les jeux, il y a deux jeux. Question pour un champion, c'est le premier parce que pas besoin de tripoter soi-même la Wiimote. Et deuxièmement, c'est le bowling. Parce que même en fauteuil roulant, même quand tu as des problèmes de préhension, le bowling, à tous les coups, ça marche. En EHPAD, donc j'ai animé des ateliers en EHPAD, ça marche quasiment tout le temps, sauf si les personnes ne voient pas très bien. Parce que là, on ne peut rien faire dans ce cas-là. Enfin, question pour un champion, on peut y jouer même si on ne le voit pas bien. Bon, Audimo, je vous en ai parlé. La borne Mello, c'est le premier jukebox pour vieux. Il y en a d'autres qui sont sortis depuis, mais c'est un jukebox, 3000 euros hors taxe, donc 3500 TTC, vendu en EHPAD, 2000 MP3, c'est pour ça que ça coûte aussi cher. 1500 euros du prix de revient, c'est les MP3, qui ne sont pas piratés. Pareil, tout le monde a beau dire, en EHPAD, ils n'ont pas les moyens. Il y a déjà 450 EHPAD qui sont équipés d'une borne Mello, et qui prennent un abonnement derrière. Gardeneige, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le déambulateur de jardinage à hauteur variable, motorisé ou non. Quand un produit est bon, c'est des designers qui l'ont pensé, des designers chinois en plus, qui sont venus en France distribuer leurs produits pour des vieux français, je trouve ça assez amusant. C'est moins de 500 euros, c'est un carton dès le premier mois. Les EHPAD, il y en a plein qui en ont acheté. Bon, je finissais par Ordissimo. Ordissimo, c'est le leader de l'informatique senior. Je vous ai mis une petite analyse de leur marché, je trouvais ça intéressant. Je rappelle qu'ils ne vendent quasiment que des fixes et des ordinateurs portables, quasiment pas de tablettes. On parle beaucoup des tablettes tactiles aujourd'hui, c'est vrai que c'est super intéressant, mais c'est pas le même usage que les ordinateurs pour les seniors. Ordinateur, Ordissimo, la moyenne c'est 3h20 par jour dessus. Une tablette 10 ou 11 pouces, qui peut passer 3 heures dessus? Qui peut écrire un mail long sur une tablette? Enfin, même moi, ça me saoule rapidement. Je termine juste. Surtout si vous créez un produit, ne vous dites pas que le cas de votre grand-mère, de votre tante ou de je ne sais pas quel aïeul est le cas et représente le marché, ce n'est pas vrai. Il faut faire des évaluations en amont, vraiment essayer de mobiliser un maximum de personnes âgées qui ne sont pas que sympas avec vous pour essayer de voir ce qui marche vraiment ou pas. Nous on fait plein d'évals, ça peut être en amont, en aval, mais on en a marre de voir des industriels venir nous voir a posteriori quand le produit sur le marché ne marche pas. On préfère les voir plus tôt, c'est quand même vachement mieux. Et trois mots à retenir, et je termine là-dessus. Acceptabilité, pensez toujours, est-ce que le produit va être accepté par les personnes, est-ce qu'il n'est pas stigmatisant, pas trop intrusif. Deuxièmement, utilisabilité, est-ce que le produit, on va réussir à s'en servir. Je peux avoir une souris d'ordinateur, elle va me mulot. Le mulot, c'est sur un plan horizontal, je fais gigoter un curseur sur un plan vertical. C'est anti-intuitif pour quelqu'un qui n'a plus ses repères spatio-temporels pour les personnes Alzheimer. Autre exemple, j'ai toute ma tête, mais j'ai plus la force de préhension nécessaire pour appuyer sur les touches d'un clavier. Donc je ne peux pas me servir d'un ordinateur parce que le clavier n'est pas adapté. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Il faut bien tenir compte de toutes les situations de handicap ou quoi la personne. Et l'efficacité pour terminer, pitié si on vend de la géoloc et qu'il faut sortir 5 fois d'un périmètre pour qu'une seule fois l'alarme se déclenche, n'est pas possible. Si on vend un capteur de chute et que pareil, il n'y a que les chutes dures et pas les chutes molles de détecter, ça ne sert à rien. Il y a plein de produits qui ne marchent pas encore parce qu'ils ne répondent pas à 3/4 des besoins. Bon, voilà. N'hésitez pas à poser des questions ou quoi, maintenant, après. Merci beaucoup.